Monsieur Badinter, qui fait la préface finalement du livre. Donc à partir de là, la recherche, il y a déjà eu un choix que j'ai fait qui était un peu la question, quel type de témoin je veux, parce que j'aurais très bien pu choisir de prendre des gens de mon entourage. Et effectivement, le premier truc, ça a été, j'ai pensé à Bidule, à machin, en disant, ces deux filles, elles ont une histoire d'homoparentalité trop géniale, ça va être super, etc. Et rapidement, je me suis rendu compte que si je partais dans cette direction, j'allais finalement faire un livre à mon image, avec des gens de mon entourage proche, donc parisiens, plutôt milieu intellectuel universitaire, etc. Et donc le choix a été de me déposséder finalement du choix des témoins et de travailler complètement en faisant confiance au sanguin lesbien de la région centre, donc de Tours, avec lequel j'ai beaucoup discuté pour sortir des thématiques, parce que je dis c'est la seule façon à peu près d'arriver à ne pas trahir le sujet et à essayer vaguement de pouvoir faire une sorte d'état des lieux des questions LGBT aujourd'hui. Et donc on a sorti comme ça quelques thématiques qui nous paraissaient incontournables, et à partir de là, ils ont cherché les témoins. Et donc la règle du jeu qui racontait en prologue était qu'ils me dépotaient à Tours, qui est une ville que je ne connaissais pas, quelque part en me disant « tu vas rencontrer Bidule ou machin, voilà, c'est parti ». Et des fois, je ne savais même pas de quoi on allait parler, d'ailleurs. Donc c'était cet intérêt d'être une sorte de témoin vierge, mais avec ce que je suis, forcément. Donc il y avait cette notion, le fait que je sois homo, je pense, influait forcément sur les réponses, puisque ça aurait été quelqu'un qui n'aurait pas du tout connu les thématiques et il serait arrivé comme ça sans rien connaître. Je pense que le bouquin aurait été extrêmement différent. Donc voilà le départ.
Donc du coup, c'était un travail, justement, le fait de faire des entretiens, c'est un travail quasiment sociologique.
Oui, tout à fait. Ouais.
Est-ce que vous aviez des principes, des méthodes que vous appliquiez pour... ou c'était,
Pas réellement, en fait. J'ai fait... En fait, ça a été essentiellement des méthodes de psychothérapie, étrangement. puisque j'arrivais déjà, j'avais aucune méthode. Au premier entretien, j'ai eu la chance de commencer par quelqu'un qui avait une soixantaine d'années, donc qui avait bien digéré son histoire, et donc qui a été capable de vraiment de la ressortir avec beaucoup de facilité et une grande qualité, en fait, de cohérence. Et après, je suis parfois tombé sur des témoins plus réticents ou moins construits. Et là, il a vraiment fallu que j'aille chercher. D'ailleurs, il y a un des entretiens qui est en deux parties, c'était un des tout premiers, où c'était le troisième de la journée, ce qui était un peu trop. Et en reprenant le train, je me suis dit, d'abord, je ne vais pas retenir ce témoignage. Et la deuxième sentiment que j'ai eu, c'était, en fait, non, le problème, ce n'est pas le témoin, le problème, c'est moi. Je suis passé à côté totalement de l'entretien, parce que je n'étais pas assez frais, parce que je n'ai pas posé les bonnes questions. Et donc, j'ai demandé à revoir la personne. Et justement là, comme j'ai fait donc de nombreuses psychothérapies dans ma jeunesse, je me suis rendu compte qu'effectivement cette approche psychothérapique, c'est-à-dire de se mettre vraiment en retrait et d'essayer d'interroger souvent même, enfin tout simplement sur le passé, sur les structures familiales, sur les représentations que la personne pouvait avoir d'elle-même, de la sexualité, de la société, etc., amenait finalement une qualité de réponse supérieure à ce que je pouvais attendre au début, en fait. Il y avait ça, et il y avait aussi le fait, finalement, de parler de moi, pas égalité, mais c'est-à-dire de donner aussi des choses, qui sont des choses que j'ai gommées du livre, ensuite. Mais il était important qu'en face, je donne aussi des choses pour en recevoir, puisque ça faisait réagir, souvent. Donc voilà, ça a été un peu comme ça, et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que j'avançais dans le livre, que, finalement, je développais une méthode, de façon assez pragmatique. Et il y a d'ailleurs certains témoins à la fin qui m'ont dit « mais j'ai l'impression d'avoir fait une psychothérapie rapide avec toi, quoi. Je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté ça, il y a des choses que je t'ai dites que je ne pensais ne jamais dire, et vraiment des choses qui sont sorties. »
D'accord. Et à la fin donc, de ce travail de la récupération des témoignages, c'était quoi les critères de sélection pour intégrer ou pas aux gens normaux ?
C'était une absence de redondance. Il y a eu quelques témoignages que j'ai retirés parce qu'ils étaient moins emblématiques dans leur richesse, dans la qualité de leur questionnement, et qui recoupaient par contre sur de nombreux points d'autres entretiens qui étaient déjà là. Il y avait tout simplement, oui, le feeling que j'avais eu avec la personne, et le fait souvent aussi qu'elle m'ait déstabilisé et qu'elle m'ait fait découvrir des choses que je ne connaissais pas, en fait. Ce qui me paraissait très intéressant, c'est de dire, je suis arrivé en me disant, bon, je connais quand même bien le sujet pour le vivre depuis quelques années, et puis avoir plein d'amis qui évoluent voilà, dans ces thématiques-là. Et finalement, j'ai été très souvent déstabilisé par des parcours qui finalement étaient extrêmement différents des miens. Et des questionnements vraiment où je tombais des nues en me disant, mais comment tu peux penser à ça, comment tu peux penser ça? Ou comment est-ce que tu peux croire ça? Ou comment tu peux vivre ça, tout bêtement?
Ça fait penser notamment à un des témoignages du livre, enfin celui de Farid,
Oui,
voilà,
tout à fait.
qui est enfin, du coup donc un homosexuel,
Complètement.
voilà,
Conservateur.
et conservateur, voilà, c'est ça
Musulman conservateur, fan de Christine Boutin.
Voilà.
Et donc ça faisait partie des demandes très spécifique que j'avais fait au centre gay lesbien en disant je veux rencontrer un religieux conservateur, que ce soit catholique, musulman, la religion n'était pas spécifiée, homosexuel, puisque je connaissais des gens ayant cette structure de pensée, paradoxale pour le moins, et il me paraissait intéressant d'aller les interroger. Et ça a été assez, oui, donc c'est lui.
Voilà, c'est
Ça a été probablement l'échange le plus remuant qu'on ait eu, puisqu'on a été, enfin, ça a été vraiment assez remuant comme échange, puisqu'effectivement, j'ai essayé mon temps, enfin, j'ai passé mon temps à essayer de le pousser dans ses contradictions pour essayer de comprendre tout bêtement comment est-ce qu'il arrivait à concilier ces deux inconciliables. À dire à la fois la gay pride c'est dégoûtant, la sexualité homosexuelle c'est dégoûtant, tout en étant dans une sexualité homosexuelle. Et voilà, j'avoue que je n'ai pas complètement compris. J'ai compris les raisons, enfin les déterminants en fait sociologiques, on va dire, qui l'ont amené dans certaines de ses positions, notamment le fait que très jeune, quand il a voulu rentrer dans le milieu homosexuel, Tourangeau, il a été en butte à des réactions de racisme le plus banal, c'est-à-dire non, avec ta gueule, tu rentres pas en boîte, etc. Donc, qui l'ont repoussé finalement ailleurs, donc plus dans en fait une sexualité cachée, souvent avec des hommes mariés plus âgés que lui, etc. Donc voilà, les choses se sont déplacées. Et dans son milieu professionnel, de même, il a rencontré des réactions racistes, parce qu'il avait fait un peu de journalisme, de la part de gens qui se disaient de gauche. Donc, il a eu tendance à aller vers la droite, ce qui lui a permis de se raccorder avec, finalement, les origines de sa famille et les valeurs musulmanes conservatrices qu'il portait. Donc, voilà, la famille, le respect de l'ordre établi, etc. Et donc, voilà, finalement, j'arrive à avoir un peu une photographie sans, évidemment, parvenir à comprendre. Mais l'intérêt, justement, c'est d'arriver, dans ce genre d'entretien pour moi, c'est de se dire, finalement, au bout d'un moment, on arrive aux limites de l'empathie dans ce qui constitue vraiment la subjectivité, c'est-à-dire le fait que je ne peux pas comprendre et je ne peux pas me mettre dans la tête de cette personne. C'est un parcours qui me restera, de toute façon, à jamais obscur, même si je peux réussir à sortir des déterminants.
C'était le reportage qui me paraissait justement plus sociologique, du coup, au
Sans
final,
doute,
parce
oui.
que précisément, il n'y avait pas de résonance, en
Ah
fait,
oui,
avec le
complètement, ouais.
personnage que vous avez face à vous, c'était assez intéressant. Et du coup, ben, ça permet d'amener un peu d'autres questionnements par rapport à la politique, notamment. Il y a un article qui est très intéressant donc, dans Les gens normaux de Louis Georgetin sur la
Tout à
construction de
fait, ouais.
l'hétérosexualité, qui est vraiment voilà, justement une vraie question et qui est au centre des gens normaux. En quoi est-ce que c'était intéressant de récupérer cette réflexion scientifique sur la construction de l'hétérosexualité et de l'appliquer à des témoignages? Comment
Alors,
est-ce qu'on pouvait voir l'articulation entre les deux?
en fait, la façon dont ça s'est construit, c'est que, alors déjà, cette thématique-là est arrivée totalement à la fin. C'est-à-dire, j'avais convenu, en fait, à l'origine, j'espérais avoir Éribon, et j'avais lu un article que j'avais adoré d'Éribon, et donc la thématique que j'avais proposée. À l'origine, il y avait des thématiques et il n'y avait pas de chercheurs en face de chaque thématique. Et après,
D'accord.
comment dire, les rendez-vous de l'histoire qui ont cherché des chercheurs en fonction des thématiques. Et donc, effectivement, Louis Georgetin s'est retrouvé sans doute avec une thématique qui n'était pas faite pour lui. Et quand est arrivé le moment de rendre, il n'a pas rendu, parce qu'il n'était pas à l'aise pour écrire son texte. Et donc j'étais très embêté. Et finalement, on a discuté ensemble. Et comme je connaissais un peu ce qu'il avait écrit, on a réussi à trouver un autre angle. Mais c'était vraiment à la fin du livre. Ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le livre se composait, j'avais un peu une sorte de fantasme de livre, ce qui est normal, c'est un peu ça qui sert à écrire de toute façon, cette espèce de fantasme du livre qu'on veut faire. Mais en même temps, il s'est composé et décomposé au fur et à mesure de la rencontre avec la réalité. Et un de mes présupposés qui vient de ma vie, c'est que je considère toujours que la sexualité n'est pas une identité. Que finalement, ce qui en fait une identité, c'est le regard extérieur, le regard normatif, qui finalement renvoie les personnes dans une forme de marginalité. Et effectivement, d'où le titre, les gens normaux, et d'où cette notion de norme, finalement, qui était omniprésente. Et il m'a semblé intéressant, à un moment donné du livre, justement en parlant avec Louis-Georges de Thun, de renverser le questionnement et de dire, mais alors finalement, cette norme extérieure, est-ce qu'elle est si normale que ça? Est-ce que c'est si normal d'être hétérosexuel, puisqu'on nous renvoie, nous, sans cesse, à notre anormalité? Et justement, c'est un des sujets d'études de Louis-Georges Thun, ça tombait bien. Et puisqu'effectivement, il a écrit des livres sur la constitution de l'hétérosexualité, non pas de la sexualité hétérosexuelle, mais de l'idéal hétérosexuel. C'est-à-dire le fait que dans notre société, on est une société qui glorifie l'amour hétérosexuel comme aucune civilisation avant, puisqu'avant on sculptait des images de dieux, enfin, il y avait plein de représentations de garçons nus. Et notre société, la principale production culturelle de notre société, finalement, c'est des histoires d'amour hétérosexuel, chose qui date à peu près de l'époque des romans courtois, et avec une montée de plus en plus omniprésente jusqu'à nos jours. Donc voilà.
Oui, bah je trouvais que c'était vraiment intéressant. En plus, ça mettait en rapport avec le titre même. Enfin,
Tout
c'est
à
même
fait, ouais.
intéressant que ce soit arrivé à la fin, parce qu'en fait, c'est
Complètement, ouais.
complètement en rapport avec le
Non, parce qu'au
titre.
début, moi, le premier
Enfin,
rang que j'avais proposé, donc là où on reconnaît l'envie des ribbons, c'était en fait, j'avais lu un article de lui sur la façon dont les homosexuels se pensent au travers du temps, en fait. C'est-à-dire de l'inverti jusqu'au gay aujourd'hui. Et peut-être jusqu'au dépassement de l'idée de gay vers une forme de sexualité plus fluide. Et ça me paraissait intéressant de montrer que finalement, notre mode d'appréhension de nous-mêmes évolue en fonction des structures de la société, finalement, et du regard qu'on comporte, et finalement des productions culturelles qui nous environnent. Mais voilà, Louis-Georges Thun ne se sentait pas très à l'aise, enfin moins à l'aise sur cette question, qui est moins centrale pour lui. Et du coup, voilà, c'est comme ça, on a fini par trouver un sujet qui lui convenait mieux et qui convenait mieux au bouquin, finalement. Puisque cette question arrivait un peu sur le côté. J'ai toujours essayé de lier les textes des chercheurs à la structure même du livre.
Ben, enfin, je pensais notamment en termes de liaison entre le texte critique et voilà. Je pensais à l'histoire Bénédicte,
Oui, tout à fait.
donc transsexuelle, homme de naissance et qui est devenue une femme. Donc elle racontait toute son histoire et c'était mis en rapport avec la question de la médicalisation pardon,
Tout
de
à
la
fait, ouais.
transsexualité, un article de Maxime Foster qui était très
Tout
intéressant
à fait,
aussi.
ouais. Mais qui a été vraiment écrit là pour le coup,
Voilà.
c'était un des articles où il était, enfin, un des sujets où il était évident, comme on avait un seul témoignage d'une personne en transidentité, qu'il fallait vraiment faire un texte spécifique là-dessus. Sinon, la question allait vraiment être maltraitée, d'autant que c'est une question vaste, complexe, et qui était une de celles qui est probablement le moins connue dans le livre. Puisque la plupart des gens imaginent connaître des homosexuels ou connaître des lesbiennes, et imaginent connaître leur vie, tandis que très peu de personnes connaissent des personnes qui sont en transidentité, en fait. Puisqu'effectivement, le processus de transidentité, quand il est réussi, aboutit à l'effacement de la transidentité.
Voilà, c'est bon. Donc je pensais à ça aussi en me disant que c'était justement peut-être dans ce cas-là que la liaison entre la science et justement le
Le
témoignage et
parcours,
et le parcours aussi
oui.
et le travail de graphique aussi
Tout
également
à
était
fait, ouais.
vraiment très réussi. Enfin, comment vous l'envisagez? Enfin, c'était réussi dans le reste du bouquin, mais là, je trouvais que c'était particulièrement bien.
Alors, à chaque fois, ça a été une question, parce que je me retrouvais avec des textes, des entretiens qui duraient plusieurs heures, et un nombre extrêmement réduit de pages pour les traduire, donc entre 12 et 20 pages, on va dire, à peu près, pour raconter une vie, ce qui n'est pas facile. Donc il y a eu d'abord tout un travail de montage énorme, et un travail, effectivement, à chaque fois, avec le ou la dessinatrice qui allait le faire. Parce qu'après, effectivement, il y a eu tout ce travail aussi de choisir les dessinateurs, parce que pour moi, chaque dessin, déjà, amène un ton. C'était le premier choix, en fait, en fonction des histoires, c'était dire qui va être celui ou celle qui va le dessiner. Et quel est, je dirais, le trait dominant, le sentiment dominant de l'histoire que je veux faire ressortir. Par exemple, la toute première histoire, qui est une histoire extrêmement dure, qui est celle d'un homme, donc il y a une soixantaine d'années maintenant, qui a accompagné son compagnon malade du sida jusqu'à la mort. Et ce qu'il a fait après, d'ailleurs, qui est une histoire bouleversante, j'ai choisi volontairement, voilà, c'est celui-là, Alexis Dormal, qui a un dessin extrêmement doux. Ce qui pouvait sembler paradoxal, mais parce que dans la personne que j'avais rencontrée, il y avait une espèce d'extrême douceur. Et c'est ça que je voulais. J'aurais pu mettre un dessin très dur, très noir, et je ne voulais pas, en fait. Je voulais renforcer le côté grande histoire d'amour, en fait, dans celui-là. Dans le cas de Bénédicte, donc la fille qui est née garçon, il y a eu une grande question. Je veux dire, mais qui est-ce qui va bien pouvoir dessiner ça? Je me dis, ça ne peut pas être un garçon, déjà, parce que, enfin, complexe de la castration, et puis même, de toute façon, on ne parlait que d'identité féminine. Donc il fallait que ce soit quelqu'un qui puisse se projeter dans ce désir d'être femme. Et il s'avère que, et dans cette histoire du corps, parce que c'est vraiment l'histoire d'un corps, d'un corps de garçon qui va devenir le corps d'une femme. Et en fait, j'avais la chance d'avoir dans le même atelier que moi une jeune dessinatrice qui s'appelle Audrey Spiry, qui justement a une capacité de dessin assez incroyable, qui est de, par son dessin, d'arriver à exprimer les sensations du corps. Et donc je lui ai proposé ce projet, ça l'a terrifiée, puisque elle venait de terminer son premier bouquin, et c'était quand même un travail extrêmement difficile. Elle l'a accepté, et c'est vraiment coltiné, mais de façon incroyable avec le texte, qu'elle a vraiment réinvesti avec, je dirais presque, son propre parcours. Parce que comme elle m'a dit, elle dit « Voilà, moi quand j'étais une adolescente, j'étais une fille sans sein, et j'avais l'impression de ne pas être une fille. » Et donc à cause de ça, finalement, ça me parle aussi. Parce que mon identité féminine n'a jamais été une chose très claire pour moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Donc j'arrive à comprendre Bénédicte à cause de ça. Parce que ses peurs, ses fantasmes, etc., tout ça, je l'ai vécu aussi en étant adolescente. Et finalement, donc elle a réinjecté énormément de choses, dont des espèces de cauchemars atroces qu'elle a dessinés, qui étaient entre les lignes, d'une certaine façon, voilà, ce genre de choses. Et la grande récompense, c'est que quand ça a été terminé, aussi bien Audrey que moi, on était tétanisés. Et quand on a donné ça à lire à Bénédicte, puisque la grande peur, c'était ça, c'était de trahir à chaque fois. Et Bénédicte, en fait, m'a rappelé en disant « Je suis super ému, je suis super remué, c'est incroyable, cette fille, c'est une télépathe. » Et voilà, elle a vraiment réussi à incarner, à dire « Mais comment est-ce qu'elle a su? Comment est-ce qu'elle pouvait savoir ce que j'avais dans ma tête ?» Et je dis « Je sais pas. Je sais pas. Voilà, c'est Audrey, c'est un génie, c'est bien. » Et donc il y a vraiment eu ça, donc, sur chaque histoire, il y a vraiment eu des histoires, une histoire à chaque fois, entre, là c'est la rencontre entre ces dessinateurs ou dessinatrices, ces histoires, en sachant que les dessinateurs n'ont jamais rencontré les témoins. Ce qui était un peu le jeu assez étrange, c'est qu'en fait, c'était un peu une garantie que j'apportais aux témoins, de leur dire de toute façon, vous pouvez parler librement, si vous voulez, ce ne sera pas votre prénom. Après, si vous voulez, si vous acceptez, ce sera votre prénom. Et de toute façon, les dessinateurs ou dessinatrices vont donner un autre visage, vont donner une autre chair. Donc, il y aura cet écran de papier entre vous et le livre, finalement. Et donc, votre parole sera la parole. Je vais essayer de conserver au maximum vos mots. Mais par contre, les images, ce ne sera pas vous. C'est pas comme si vous aviez une caméra en face de vous. Et je pense que ça, c'était vraiment libérateur pour les témoins.
Peut-être d'autant plus du fait aussi que, en fait, le témoignage, donc c'est ceux de ces personnages, mais c'est aussi quelque chose que vous avez peut-être orienté, réorienté, peut-être un peu fictionalisé au final.
Non, absolument pas. C'est vraiment, je sais que j'ai, il y a un des témoins à qui j'ai envoyé le texte, celui qui est appelé Marc, si je me souviens. Non, c'est Marc, oui, c'est Marc. Donc, qui est lui un jeune homme catholique, mais plutôt tendance très ouvert, très humaniste. Qui pense que bah, si Dieu lui en veut d'être homo, c'est qu'il est bien con, et qui lui travaille dans le milieu, enfin, dans une école catholique. Et donc, autant dire qu'il y a aussi des enjeux qui sont assez compliqués, à savoir qu'il est terrifié qu'on découvre son homosexualité parce qu'il sait qu'à ce moment-là, sa carrière sera fichue et que tout espoir de promotion disparaîtra. Et donc j'ai envoyé le texte de travail, en fait, qui était un montage où j'avais quand même coupé beaucoup de choses pour ne garder que l'essentiel. Et il m'a renvoyé un mail en disant « Mais t'as tout mis ?» Et je lui ai dit « Non, alors là, c'est un énorme compliment parce que j'ai environ viré 90% des choses. J'ai gardé juste tout ce que je pouvais mettre, mais pas plus. » Il m'a dit « Ben, je m'en suis pas rendu compte. » Donc ça vraiment c'était, je sais pas si j'ai réussi avec lui j'ai réussi, je sais pas si j'ai réussi à tous les coups, mais la plupart des témoins avec qui je suis resté en contact m'ont dit qu'ils retrouvaient l'échange qu'on avait pu avoir.
Parce que c'est vrai que les gens normaux vous mettent pas mal en scène aussi,
oui.
Prenant position également.
Tout à fait. Alors ça, c'était la grande question, c'était la question de ma place à l'intérieur du récit. Parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à dire qu'on travaille dans un contexte, et le genre du livre est un contexte, et dans beaucoup des livres d'entretien que j'avais lus, ce qui me dérangeait, en fait, c'était une fausse prétention à l'objectivité. C'est-à-dire on se retrouvait avec des entretiens mis en scène, comme si c'était la personne qui racontait elle-même sa propre histoire, alors qu'il y avait forcément un scénariste qui avait fait ça. Et le scénariste se gommait lui-même. Et pour moi, c'était mentir. Je préférais assumer totalement la subjectivité en disant « Je suis là, forcément je réagis, forcément en fonction de ce que je dis, les gens réagissent aussi. » C'était pour moi la seule façon d'être objectif, c'était de me mettre à l'intérieur et de dire qui j'étais également. C'est-à-dire que le lecteur sache que je suis homo, que j'ai eu une enfance plutôt catho-conservatrice, on va dire, etc. Parce que c'était la seule façon de pouvoir dire d'où j'interviewais finalement. Et de plus, ça constituait le fil rouge, du coup, cette espèce de petit jeu, j'arrive quelque part, voilà, c'était mon aventure, en fait, que je racontais, puisque c'est toujours quelle histoire je suis en train de raconter, c'était cette expérience-là, d'être propulsé en espèce d'apprenti reporter sociologue chez des gens que je ne connais pas, et d'essayer de mener des interviews avec une technique défaillante.
Mais du coup, cette idée justement de savoir d'où on parle, ça me fait penser à l'autre pan, de cette réflexion. Sur l'homosexualité dans votre œuvre.
Oui, tout à fait.
Donc, La ligne droite, en collaboration avec Marie Caillou, qui là est plus d'orientation biographique,
oui,
plus clairement, du moins.
Juste un petit point avant de terminer sur les gens normaux. Ce qui est assez assez particulier dans les gens normaux, c'est que tous les entretiens ont lieu avant les manifs pour tous.
Oui,
juste avant. Et donc, forcément, ça. Mais c'était, je dirais que c'est plutôt bien parce qu'on était en dehors de cette espèce de parole hystérique qu'on a pu connaître après, et qu'on a simplement rajouté un entretien, ce qui a modifié la structure, celui justement avec le jeune homme travaillant dans l'éducation catholique, où je lui ai demandé, est-ce que tu as des choses nouvelles à me dire? Et il m'a dit, oui, j'ai beaucoup de trucs à raconter. Et donc, il m'a raconté, et c'est devenu l'épilogue en fait du livre, que suite au Manif pour tous, il avait perdu la foi et qu'il était sorti. Finalement, il a plus ou moins conservé la foi, mais surtout qu'il était sorti définitivement de l'Église catholique. Voilà. Et c'était donc du coup la fin logique du livre, c'était dire voilà, ce que vous avez fait aussi a des conséquences. Et donc effectivement, quand j'ai été certaines fois en conférence et qu'il y avait des gens de la Manif pour tous qui essayaient de venir nous perturber, je me suis toujours fait un plaisir de raconter cette histoire. Ça les calmait pas mal.
D'autant plus qu'au début, c'était quelqu'un qui avait vraiment,
ah oui.
Qui arrivait tout à fait à concilier sa foi
totalement,
et,
ouais. Et l'Église, et en disant les gens ne sont pas si cons dans l'Église.
Voilà.
Effectivement, peut-être que le pape est con, mais l'Église, ça n'est pas ça. Et finalement, suite au Manif pour tous, il a dit non, mais là maintenant, c'est terminé, quoi. D'accord. Je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là.
Oui, c'est vrai que c'était un reportage, un témoignage vraiment intéressant pour ça, parce que, en plus, en contrepartie de celui de Farid, qui par contre là est complètement dans
totalement,
dans la contradiction. Donc La ligne droite, récit d'un adolescent qui découvre son homosexualité. Voilà, c'est plus romancé, même si on trouve les mêmes enjeux parfois.
Oui, ça va commencer, c'est un autre point de vue, dans le sens, effectivement, c'est une fiction. Et c'est toujours la question de où est-ce qu'on se place dans un livre, en fait. Et je dirais, dans ce livre-là, effectivement, qui est une fiction, c'est une fiction à forte teneur autobiographique, puisque ça se passe en Bretagne. C'est l'histoire, le parcours d'un jeune homme d'une famille assez coincée, catholique, qui est à l'école à Brest, en face d'une école, de son école, il voit un pont qui s'appelle le pont des suicides, qui existe à Brest, qui s'appelle le pont Schumann, que tout le monde connaît d'ailleurs, comme le pont des suicides dans la région. Et il va découvrir son homosexualité. Et voilà, c'était vraiment l'histoire est née un jour où j'allais chez mes parents. Excusez-moi, il veut pas rester. J'allais chez mes parents et je traverse ce fameux pont duquel certaines personnes que je connaissais avaient pu sauter. Et ils étaient en train, bien des années plus tard, d'installer des barrières anti-suicide. Et qui lui faisait ressembler à un pont de l'Allemagne de l'Est dans la plus joyeuse période. Et tout d'un coup, il y a eu effectivement une espèce de flashback très violent qui s'est passé sur un garçon, justement, que j'avais connu et qui avait sauté de ce pont et qui était un pauvre gars, mal habillé, pas sexy, etc., 15 ans comme j'avais. Et je me souviens justement que quand j'avais appris sa mort, quand j'avais 15 ans, je m'étais dit, c'est vraiment con, on avait tellement de choses à se dire du coup. et de réaliser, simplement réaliser, en réalisant le désespoir de ce garçon-là par rapport au désespoir qui était le mien. Et voilà, et du coup, ça a été vraiment l'élément déclencheur de toute l'histoire. Je dirais, je ne suis pas le garçon, il y a une part fictionnelle, puisque je pense que j'étais beaucoup moins courageux que lui, d'ailleurs, et qu'il est finalement beaucoup plus, oui, beaucoup plus droit, beaucoup plus fort que je pouvais l'être à son âge, parce que j'étais juste terrifié, moi, qu'on découvre, et je n'osais absolument à peine regarder un garçon de peur qu'on découvre l'horrible chose qui était cachée en moi. Donc il a fallu que j'attende un peu plus tard pour commencer à découvrir un peu la vie. Mais voilà, j'avais vraiment envie de raconter ça. C'était aussi avant les Manifs pour tous. Et effectivement, quand ce bouquin-là est sorti, quasiment en même temps que Les gens normaux, en regardant les Manifs pour tous et en me disant qu'il y avait probablement un certain nombre de jeunes gens homosexuels emmenés quasiment de force par leurs parents à l'intérieur, je me suis dit finalement c'est d'une grande actualité, alors que c'est un bouquin qui pour moi était daté, qui était daté d'il y a 10, 20, 25 ans, quoi.
Mais du coup c'est intéressant justement de voir que, enfin, à partir donc on parlait d'une enquête sociologique, des articles scientifiques, quelque chose de plus autobiographique qui relève de l'intime, finalement, en fait, on fait de la vulgarisation.
Ah, complètement,
on apprend,
ouais.
On donne la parole aussi, mais du militantisme, en fait. Aussi.
Oui, ben, pour moi, dans tout ce que j'ai pu écrire, parce qu'après, il y a d'autres fictions, comme Ispatouche, ou... en fait, on écrit toujours de là où on est, de toute façon. Et de ce qu'on écrit, c'est ce qu'on est, de toute façon. On ne peut pas se cacher. De toute façon, ça finit toujours par sortir. Donc, moi, j'ai commencé en bande dessinée il y a une quinzaine d'années, dans un milieu qui, à l'époque, n'était pour le moins pas très, très homosensible. Pour ne pas dire... Enfin, il n'y avait que des mecs hétéros qui dessinaient, pour beaucoup, des filles avec des gros seins. Les filles étaient absentes. Il n'y avait pas de lectrices de bande dessinée. C'était un milieu, enfin, j'avais donc notamment, je connaissais un peu Fabrice No, et un jour Fabrice est venu me voir en me demandant « Et toi, t'en connais combien ?» Moi j'ai dit « Bon, je crois que je connais à peu près 5 homos dans le monde de la bande dessinée. » Il fait « Ah, moi j'en connais un de plus que toi, j'en connais 6. » En sachant qu'on connaissait des centaines d'auteurs, tous les deux. Voilà. Et donc lui, il avait une grande théorie comme quoi, donc il y avait forcément une cinquantaine, voire une centaine d'homos cachés, etc. Et moi, j'avais dit, oui, mais attends, mais dans ce cas-là, si on prend ta théorie, ça veut dire que là, dans la salle, il y a au moins 200 mecs qui, en fait, sont des filles. Parce que il y a 5 filles dans la salle, là. Et en fait, voilà, c'est juste, c'était un milieu qui n'attirait ni les femmes à l'époque, ni les homos en général, tout simplement parce qu'il y avait aussi une sorte de sélection par l'éditorial, on va dire. Et donc, Fabrice, lui, était dans de l'indé. Moi, c'est vrai que j'ai commencé assez vite en étant publié dans des grandes maisons d'édition mainstream, doucement à essayer de faire des trucs un peu différents, c'est-à-dire à faire des héroïnes filles mais qui jouaient sur leur genre, qui se déguisaient en garçon, voilà, Miss Patouche, qui est une histoire qui se passe, qui est une jeune fille vierge, maîtresse souhaiteuse dans un bordel dans les années 30 avec des amours lesbiens, des amours sadomasochistes, un travesti black, voilà, Mijo, qui est la fille la plus sexy du bordel. Et c'est devenu, ce qui a été étonnant, c'est quand on a présenté ce projet-là, la plupart des éditeurs nous ont claqué le truc à la porte à la figure en nous disant, mais il n'y a personne pour lire ça. De toute façon, il n'y a pas de filles qui lisent de la bande dessinée. Donc, avec le dessin, si, déjà au moins vous pourriez lui mettre des gros seins. Donc, en sachant que c'est un couple, donc la dessinatrice qui a dessiné Miss Patouche, c'est une fille en plus. Donc, on a vraiment écrit ça à 6 mains, on va dire. Et il y a un éditeur, donc, qui était Dargaud, Poisson Pilote, qui a accepté ce projet. Et à la surprise générale, ça a été un succès. Et surtout, à la surprise générale, ils se sont rendus compte qu'on avait 50% de lectrices. Et que dans les files de dédicace, c'était des femmes, très souvent, qui venaient pour se faire dédicacer l'album. Ils n'avaient jamais vu autant de filles sur les stands de bande dessinée. Et ça a été... Après, il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu Pénélope Bagieu, etc. Enfin, mais on a été vraiment dans cette première génération d'auteurs avec un lectorat féminin. Parce que je pense qu'on proposait autre chose, tout simplement. Et que du coup, les filles pouvaient se dire « Tiens, pour une fois, c'est pas une nana qui a deux neurones dans la tête, c'est pas un objet sexuel, c'est pas... » Voilà, il y a d'autres codes qui se mettent en jeu. Et c'est donc plus amusant pour nous de le lire que de voir une potiche. Voilà. Donc, il y a eu ça. Enfin, voilà. Donc, Après, dans tout mon parcours, ça a toujours été la question aussi d'essayer d'être cohérent avec ce que j'étais, tout bêtement. De ne pas me cacher, évidemment, mais aussi de proposer des fictions un peu différentes. Parce que pour moi, il y a, je dirais, un combat de valeurs qui est en jeu à l'heure actuelle, entre... et qu'on voit monter, notamment les réflexions tous à poil et ce genre de choses. Donc, si on n'est pas capable de porter, effectivement, les choses... et de proposer effectivement d'autres types de fictions, de dire on n'est pas obligé de faire toujours les mêmes types de fictions, de représenter toujours les femmes de la même façon, de représenter toujours les minorités sexuelles de la même façon, etc., etc., parce qu'après, il y a plus les minorités ethniques, etc. Tout ça est important, puisqu'effectivement, ça modèle aussi l'esprit des lecteurs. Voilà. Et moi, je sais que ma grande fierté, ça a été une fois dans un festival de bande dessinée où Marie dédicaçait à côté de moi. Et il y a un monsieur de la cinquantaine, visiblement gros collectionneur de bandes dessinées, qui est venu et qui, donc Marie lui pose la question en disant « Vous voulez quel personnage ?» Et il fait Miss Jo, donc le grand travesti black sosie de Joséphine Baker. Et le monsieur se tourne vers moi avec un air un peu étrange et il me fait « Mais... pourquoi, en fait, c'est un garçon ? » visiblement, il avait une grosse attirance pour ce personnage-là. Et donc, je lui ai expliqué que certaines très belles femmes étaient aussi de très jolis garçons et que les choses n'étaient pas forcément aussi simples que ça. Et donc, je lui ai demandé, « Et donc, vous voulez toujours Miso ?» Il a fait, « Oui, oui, Miso. » Et voilà, et Marie lui a fait sa dédicace et il est parti très content. Mais rien que ça, ce petit trouble-là qui avait existé pendant une seconde, c'était une grande récompense.
Je pense que c'est une bonne manière de conclure sur cet entretien. J'aurais plein d'autres questions à poser, mais voilà. Mais maintenant, c'est votre tour. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ?
Oui.
Tu parlais de réactions dans les gens normaux,
ouais.
De ceux que tu as interviewés qui te renvoyaient des bonnes choses, mais justement Farid.
Ouais.
Est-ce que quand tu l'as envoyé, il y a eu des reproches à te faire ou...
Je n'ai pas eu de retour. Il fait partie de ceux qui n'ont pas répondu du tout. Non. Voilà, c'était aussi un choix que je leur laissais, donc qui ne s'appelle pas Farid. C'est-à-dire, il y a certains, à la base, je leur mettais tous un pseudo. Et ceux qui m'ont dit, il n'y a pas de souci, je veux bien que tu mettes mon vrai prénom, comme Bénédicte, comme Philippe, par exemple. À ce moment-là, je mettais leur... Il y en a qui ont dit, non, il n'y a pas de souci, mais je veux garder un pseudo. Voilà, après, ça a été vraiment une négociation. Et il y a eu donc le cas de Farid qui ne m'a pas répondu, et le cas plus dramatique de Momo... dont on n'a aucune nouvelle. Oui. Et là, effectivement, ça m'a vraiment... Parce que donc, c'est un garçon qui a été persécuté dans son pays pour son homosexualité, puisqu'il vient de Guinée, Conakry, et qui était en France, qui faisait une demande d'asile. Et voilà. Et je n'ai aucune nouvelle de lui. Alors j'espère que simplement il s'est fondu dans la foule et que... il n'aura plus jamais de problème, mais il est possible qu'il ait été renvoyé dans son pays, dans lequel il est probable qu'il finisse par mourir.
Ce personnage-là, là, on voit, enfin voilà, il y avait les récits donc, de son lynchage, en fait, parce que l'homosexualité est prohibée.
Donc. Tout à fait. En fait, c'est une histoire, c'est vraiment une tragédie grecque, dans le sens où sa belle famille, parce qu'il est orphelin, la deuxième femme de son père a appris son homosexualité en sachant que lui était héritier d'une famille très aisée et s'en est servi pour instrumentaliser tout l'entourage qui a fini par le lyncher. Tout ça pour pouvoir voler ses biens. Enfin voilà.
Et d'ailleurs, à la fin des gens normaux, il y a une carte
tout à fait.
Qui représente, en gros, qui indique dans quel pays l'homosexualité est interdite, de quoi est-ce qu'elle peut être
publiée. Et malheureusement, elle a encore évolué depuis et pas dans le bon sens.
Oui, c'est-à-dire.
Il y a plusieurs pays d'Afrique qui ont criminalisé l'homosexualité. La Russie, on voit que ça se durcit, etc. Donc, en quelques mois, les choses n'ont pas été vraiment dans une évolution positive. Oui, oui.
Ouais, je veux savoir, alors c'est peut-être trop personnel, mais parce que tu as dit que tu es homosexuel.
Oui, oui.
Je ne connais pas trop ce milieu, si c'est un milieu. Et moi, je sais que les manifs pour tous, ça m'a très remué. Et
Je
suis devenu militant. Enfin, je suis devenu. Avant, j'étais. Je n'étais pas homophobe, mais j'étais avec les gens de l'OPD, voilà. Et, et du coup, j'ai pris conscience que, en fait, c'était pas encore un problème, que c'était parce que pour moi, ça allait l'être, mais en fait, ce n'était pas le cas. J'ai vu qu'on avait encore beaucoup de trucs à faire. Je suis devenu militant de plein de trucs d'un coup, et je veux savoir, un homosexuel, comment vous avez vécu un truc pareil ?
Très violemment. C'était extrêmement violent. Moi, j'avais le souvenir du Pax, ayant 43 ans, donc je m'en souviens très bien, puisque quand, juste avant le Pax, j'étais arrivé, parce que j'ai une famille plutôt catholique, voire très catholique, élevé dans des écoles catho, et par instinct de survie, j'ai nié Dieu à l'âge de 13 ans, j'ai fait ma propre, ma propre révolution théologique. Et après, ça s'est apaisé. Je me disais, bon, bah, chacun croit ce qu'il veut, c'est pas grave, etc. Et il y a eu, effectivement, le fameux moment héroïque de Christine Boutin à l'Assemblée avec sa Bible. Et ça a été un moment donné où, tout d'un coup, je me suis dit, c'est vrai, j'avais oublié, ce sont mes ennemis. Ils en veulent vraiment à mon droit d'exister. Donc, à partir de maintenant, c'est la guerre, de toute façon. Tant que j'aurai des moyens de faire quelque chose, et je considère que l'écriture est un moyen, ça fera partie de mes combats de toute façon. Pas de façon forcément frontale, mais en tout cas, oui, je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Et je n'ai pas l'intention de fermer ma bouche. Et donc, l'arrivée, en fait, de cette espèce d'hystérie de la parole homophobe lors du mariage pour tous n'a pas été une surprise, réellement. Je pensais, malgré tout, que l'Église catholique avait compris le mal qui s'était fait eux-mêmes en étant ce qu'ils avaient été à l'époque du Pax. Il semblerait que non. Je pense, personnellement, en tout cas je l'espère, qu'ils vont le payer très cher, puisque il faut savoir, et c'est assez rassurant, qu'à l'heure actuelle, les chrétiens pratiquants, c'est-à-dire qui vont à la messe, représentent 2% de la population française. Ils sont moins nombreux que nous. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont une capacité de nuisance qui est encore très très forte. Pardon ?
Il y en a une effective ou pas ?
Ah oui.
La loi est passée, quoi.
Non, mais
un bruit scandaleux, mais est-ce qu'ils ont...
Bien sûr, ils ont réussi à faire rejeter la PMA, ce qui est juste une aberration totale, puisque c'est vraiment, là, pour le coup, au-delà même des principes, c'est tout simplement une inégalité sociale, puisque seuls les couples de femmes ayant des revenus élevés peuvent se permettre d'aller se faire inséminer à l'étranger. Et c'est très compliqué. Donc c'est vraiment ridicule, puisque de toute façon, un couple de femmes qui a les moyens, qui a la détermination, le fera. Donc ça ne changera rien. C'est juste mettre une barrière face à une égalité qui devrait être. Et il y a beaucoup d'autres choses. C'est que là, on est en train d'assister à une crispation, à une hystérisation des propos, qui aboutit également à des crimes homophobes. C'est-à-dire que voilà, la parole n'est jamais quelque chose de neutre. On crée des structures mentales, on crée des gens qui, effectivement, se permettent de cracher sur la gueule des PD, des lesbiennes, des trans, etc. Et après, on assiste à des ratonnades, entre guillemets. Et on sait, il suffit d'avoir étudié les années 30, de savoir que la parole précède toujours les actes. Donc, effectivement, il y a des raisons d'être inquiet de ce qu'ils font.
Dans la réception de ton livre, tu disais que c'était à peu près au moment des manifs pour tous.
Non, il est sorti juste après, en fait. Il est sorti en octobre.
D'accord. Bah, du coup, ça marche quand même. Est-ce que tu as eu des militants de la manif pour tous qui sont venus, genre...
On avait l'avant-première du livre a été au rendez-vous de l'histoire, où j'ai fait une intervention publique avec Florence Tamagne. Et il y avait un espèce de piquet de grève, manif pour tous, qui hurlait parce que le bouquin, en plus, était soutenu par les rendez-vous de l'histoire. Et lors du festival de bande dessinée donc de Blois, un mois plus tard, on avait une exposition dans la médiathèque de Blois. Et ils étaient devant la médiathèque en train de distribuer des tracts ignobles. Voilà. Et à essayer de les planquer dans les espaces jeunesse, etc., etc. Ils ont essayé de venir perturber la conférence qu'on faisait avec Florence, mais on les a calmés assez rapidement tous les deux. Moi, en racontant effectivement l'histoire, mon propre parcours et l'histoire de ce garçon ex-catholique par leur faute. Et Florence, en rappelant un peu l'histoire du droit autour de l'homosexualité en France, en le rattachant à Vichy. Donc à partir de là, ils étaient un peu coincés et sur le côté émotionnel et sur le côté justification morale, etc. Donc ils se sont tus et enfin on a eu le droit à quelques questions insidieuses, mais que Florence a magnifiquement résolu.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Elsa.
J'aimerais savoir si tu as eu des retours sur le choix d'intégrer une dimension théorique en fait à la bande dessinée.
Alors déjà, c'était pas mon choix, mais effectivement, j'ai l'impression que ça a été bien perçu globalement, que les gens trouvaient ça intéressant. Enfin, alors certaines personnes n'ont pas lu tous les textes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent oh, j'ai bien aimé, mais j'ai pas lu. C'est trop long, il y a trop de mots, tout ça. mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont trouvé ça intéressant d'avoir l'aller-retour en permanence entre quelque chose d'empirique et une théorisation qui vient en parallèle. Donc voilà, ça a été plutôt bien reçu. Et d'ailleurs, l'autre côté, c'est que les chercheurs ont très bien accueilli la chose, parce qu'ils étaient contents aussi de cette démarche de vulgarisation, de pouvoir amener vers un plus grand public leur texte.
Mais et d'ailleurs, je précise aussi juste à titre de remarque en plus, par exemple dans Miss Patouche, qui est une œuvre de fiction,
Oui, tout à fait.
il y a quand même toute une réflexion sur la manière dont on percevait l'homosexualité comme maladie,
Complètement, ouais.
voilà, on opérait les gens, enfin en gros, on
Parce qu'en fait,
les gens
c'est une
faire.
œuvre de fiction, mais qui est réellement basée sur un travail de documentation très important. Et par exemple, le personnage de Miss Jo, donc ce travesti, est en fait vraiment basé sur des données historiques, dans le sens où on voyait très souvent, il y avait des espèces de petits catalogues touristiques des meilleurs bordels de Paris qui existaient à l'époque, qui étaient distribués très très largement, puisque Paris était vraiment une des deux capitales du sexe dans le monde avec Berlin. Et on voyait, voilà, tel bordel, 12 filles dont un garçon. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas du tout cette question, en fait, c'est quand je parlais de représentation mentale, c'est qu'en fait, un actif était un homme du moment qu'il ne faisait pas prendre. Donc finalement, qu'il n'y avait qu'une fille et qu'un garçon, tout ça, c'était pas très important, et tout mon bordel se devait de satisfaire au maximum tous les désirs possibles. Voilà, donc il y avait cette nécessité. Il y avait également des étalons, il y avait, enfin, voilà, tout ce qu'on pouvait trouver, en fait. Toute forme de sexualité devait pouvoir être assouvie dans les meilleurs bordels.
Le terme, mais d'un point de vue historique, du coup, comment ça a évolué, ça, justement, cette représentation, et à quelle période, justement, ce que vous avez
Alors, c'est assez paradoxal, c'est que il y a le fait de, en fait, d'une certaine façon, du mouvement de reconnaissance des homosexuels à isoler la sexualité homosexuelle. Bon, il y a Hirschfeld qui est très connu, mais après, tous les mouvements de revendication, etc., a amené à créer finalement une identité homosexuelle qui a fait basculer l'identité du rôle de pénétrant-pénétré à celui du choix de l'objet affectif. Et d'une certaine façon, il est devenu, on le voit avec le cas des billes aujourd'hui, il est devenu de moins en moins possible d'être fluide. Quelqu'un qui est bi, on lui dit non, mais tu peux pas être bi, t'es un homo qui s'assume pas. Alors que jusque-là, d'une façon contrainte et forcée, très souvent, beaucoup d'homosexuels avaient une famille également, et des enfants, c'était pas un souci. Donc, les catégories mentales, de toute façon, nous conforment, et nous nous conformons même inconsciemment à ces catégories mentales. Donc, à partir de l'instant où on se dit homosexuel et on se pense homosexuel, d'une certaine façon, on se construit en imitant ses propres choix. Tout comme, d'une certaine façon aussi, aujourd'hui, je pense que les hommes hétérosexuels, connaissant l'homosexualité, s'oblige à ne pas désirer d'autres garçons. Alors que dans certains pays méditerranéens, on voit que cette sexualité est beaucoup plus fluide, finalement. En l'absence de femmes, finalement, on peut faire ça avec des hommes, c'est pas très grave. Mais ça devient discriminant à partir de l'instant où il y a des catégories pour le penser.
Est-ce que dans cette fluidité dont tu parles, dans les pays méditerranéens, il y a encore ce distinguo actif-passif
Oui.
qui a été depuis.
Ah oui, totalement. Justement, là, quand il n'y a pas effectivement l'objet, il y a effectivement cette discrimination extrêmement forte entre le passif, qui est femme, donc qui est. C'est horrible. C'est quelqu'un de perverti, puisque c'est un homme qui devient femme. Donc il met en question l'espèce d'image dominante de l'homme, de ce que doit être un homme. Donc forcément, il est très mal vu. Et par contre, l'actif, lui, est valorisé, voire même survalorisé dans certains cas. C'est-à-dire dans certaines représentations, un homme qui prend des hommes est un surhomme, d'une certaine façon.
D'ailleurs, enfin, c'est dans le témoignage de Farid, donc le
Oui,
personnage dont on parlait tout à l'heure, ça
c'est
c'est
exactement
complètement
ça.
présent.
C'est en arrière-plan, mais on trouve cette idée-là, finalement.
Pour lui, c'est pas un problème d'être homosexuel, précisément
Non.
parce qu'il se décrit comme actif. Enfin,
En
voilà,
permanence. En permanence. Et à un moment donné, il dit, mais bon, je vais me marier. Et je lui dis, mais t'as jamais touché une fille, c'est pas un problème. Il fait, bah non, je suis actif. Voilà, c'est ça. C'est une autre façon de penser, finalement.
Justement, par rapport à ces autres façons de penser, vous avez dit, et ça m'a assez marqué, normes. Et là, vous parlez d'actifs, passifs. Qu'en est-il de la réappropriation de ces normes extérieures, finalement, dans lesquelles tout le monde vit, par la population homosexuelle, transsexuelle, etc.
Alors,
vous avez dit mon mari, alors là, maintenant qu'il y a le mariage pour tous, mais il me semble que c'est une dénomination qui était adoptée bien avant. Peut-être
que Non, je pense pas que j'ai dit mon mari, parce que j'ai dit mon mec. Je pense parce que justement, j'ai pas l'intention de me marier. Mais justement, je me suis battu pour avoir le droit de ne pas me marier, en fait, mais de le choisir.
Oui, oui, oui.
Oui, bien sûr. Alors, c'est assez complexe parce qu'il y a. Alors, déjà, je pense qu'actuellement, il y a des normes très différentes qui coexistent. Un des grands trucs, ça a été déjà la réappropriation qui est ancienne, qui date déjà du front de libération homosexuelle, qui était la réappropriation des insultes. C'est dire, j'ai le droit de me traiter de pédé, mais toi, tu n'as pas le droit de dire ce mot. Mais moi, par contre, je peux dire, je suis un pédé, je suis un enculé, je suis tout ce que tu veux, parce que je le suis. Et voilà, comme Niger, comme toutes ces choses-là, en fait. Et donc, de retourner l'insulte et de se l'approprier, et finalement même de la porter avec fierté, voilà, je pense que ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'actuellement, la grande revendication, après je parle vraiment, là je ne suis pas sociologue, je parle vraiment simplement en mon nom propre, c'est finalement effectivement ce droit à l'indifférence et une grande tentation finalement de conformité. C'est-à-dire qui peut être assez étonnante quand on reprend l'histoire, justement quand on parle du front de libération homosexuelle, du FAR, qui justement était très queer, c'est-à-dire réclamait le droit à la bizarrerie, le droit de dire « mais si on veut être trois, on est trois, si on veut vous choquer, on vous choquera ». Et maintenant, finalement, il faut finalement se mouler dans le moule hétérosexuel, fonder une famille, avoir des enfants, alors que déjà pour ma génération, un peu post-punk, ça nous paraît un peu étonnant. Moi, c'est vrai que je me suis toujours dit, je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, mais quelle idée. Je suis avec quelqu'un depuis très longtemps, mais je n'ai surtout pas envie de me marier. Et peut-être que demain, je plierai les bagages et j'en trouverai un autre. Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, j'ai jamais voulu... Alors après, bon, c'est peut-être aussi le milieu dans lequel j'évolue, qui est un milieu artistique, culturel, etc. Mais cette idée de se conformer à m'a toujours embêté. Et en fait, je vois que finalement, c'est une aspiration majoritaire en ce moment. Moi, c'est vrai que mon aspiration, c'est d'avoir le droit à choisir, c'est-à-dire vraiment le droit absolu. C'est-à-dire que ça m'embête que mes amis hétérosexuels aient le droit de ne pas se marier et pas moi.
Oui, ben, du coup, on va enchaîner s'il n'y a plus d'autres questions sur... l'entretien avec Morphine, et puis on reviendra ensuite pour refaire une table ronde avec tout le monde.
Et d'abord, c'est Morphine.
Et JC, avec JC. Table ronde avec Morphine, JC et Hubert. C'était toi.
Juste quelques images, c'est un besoin.
Alors attendez, je me... Ah, c'était qui s'appelle Lucie, entretien avec Lucie. Je faisais...